Je voudrais commencer ce moment de partage par la question: combien y a-t-il de versets qui parlent de la bonté de Dieu? Alors, moi, je n'ai pas fait le décompte, mais j'ai trouvé un site qui a fait le décompte et il en dénombre 61. Il y a 61 versets qui parlent de la bonté de Dieu. Et le premier à être référencé est le verset dont nous allons parler aujourd'hui. Marc, chapitre 10, verset 18. Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Si je vous demandais de me donner un verset de la Bible qui parle de la bonté de Dieu, je suis à peu près sûr qu'au moins l'un d'entre vous me donnerait ce verset, le verset 3 du psaume 63, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. » C'est le cantique 88 dans notre recueil des fleuves d'eau vive, mais c'est aussi le psaume 63, verset 3. Alors voilà, je suppose que vous connaissez tous l'expression « mettre quelqu'un dans une case ». Cette expression suggère que la personne que nous mettons dans une case est forcée de se conformer à un certain type de comportement ou de personnalité. Nos contemporains et même dans nos églises, nous sommes habitués à mettre les autres dans une case. Par exemple, la société met les femmes dans une case en leur disant qu'elles doivent être douces, obéissante, agréable à regarder, que sais-je encore. Mais si je me contente de cette case et de cette case seule, la case douce, obéissante, cela signifie que j'oublie ou à tout le moins que j'occulte le fait qu'elles sont aussi sensibles, intelligentes, fortes et parfois beaucoup plus fortes que les hommes. Et ici, il ne s'agit pas de muscles. Et il y a encore beaucoup d'autres qualités que l'on pourrait reconnaître aux femmes. L'expression « mettre quelqu'un dans une case » est synonyme de classer quelqu'un, d'enfermer quelqu'un dans un moule ou d'enfermer quelqu'un dans une catégorie. Peut-on réellement enfermer la complexité de Dieu dans une seule case, même si cette case est positive, comme la case « bon », le bon Dieu? Ne serait-il pas plus juste de dire que Dieu est au-delà de nos concepts humains, y compris celui de bon? Alors, si vous voulez bien, nous allons lire ensemble l'Évangile de Marc au chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant Jésus et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit: « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista: « Oui, mes enfants, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors voilà, mes amis, il y a quelques pépites dans ce texte. Et nous allons essayer de répondre en trois points à la question suivante, si Jésus est Dieu, ce que personnellement je crois, si Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il dit à l'homme, « Personne n'est bon, sinon Dieu seul ?» Premièrement, Jésus interpelle cet homme sur sa propre conception de Dieu. Et c'est le sens de la première partie de ce récit. Jésus se met en chemin lorsque cet homme accourt. Il se jette littéralement à ses genoux. Et sans aucun préambule, il lui dit « Bon maître ». Pour un bon début, c'est plutôt un bon début. Sur bien des aspects, cet homme semble parfait. En tout cas, il est parfait dans son attitude, dans son approche de Jésus. Le jeune homme se prosterne, il se jette à genoux, il est très respectueux envers Jésus. Puissions-nous nous approcher d'une telle manière, avec un tel respect aux pieds de notre Seigneur et Sauveur. J'entends parfois notre frère Daniel nous rappeler, et à juste titre, que Jésus n'est pas notre copain. Jésus est Dieu et c'est avec respect que nous devons nous approcher de lui. Alors, cela m'amène à nous poser cette question. Quelle est notre attitude lorsque nous nous approchons de Jésus? Et tant que nous y sommes, nous pouvons aussi nous poser cette autre question. Quelle est notre attitude lorsque nous venons au culte le dimanche matin? L'attitude du jeune homme riche est une attitude très dynamique. J'imagine que lorsqu'il a été mis au courant de la visite de Jésus dans sa ville, il s'est probablement mis en chemin sans perdre un seul instant. Tout de suite, il s'est mis à courir. On pourrait presque dire que sa façon d'arriver au pied de Jésus a quelque chose de théâtral. Et j'aime autant vous dire que se jeter à genoux sur les chemins caillouteux d'Israël, cela devait être plutôt douloureux. Donc, il y a dans cette image comme un élan, un abandon total, une reconnaissance de la grandeur de Christ. Il vient vers Jésus en lui disant « Bon maître ». Les autres évangiles nous montrent que cet homme était jeune, qu'il était riche et probablement il était cadre d'une synagogue. On a en quelque sorte la crème d'Israël qui vient se présenter devant Jésus. Et cet homme, cette élite sociale, mais aussi cette élite spirituelle, n'a qu'une seule idée en tête. Faire suffisamment de choses, faire suffisamment de bonnes œuvres afin de recevoir la vie éternelle. Ne trouvez-vous pas que cet homme est touchant? Sa façon de venir aux pieds de Jésus afin d'obtenir des réponses à ses questions est touchante. De plus, quelle humilité! Quelle humilité pour un homme de cette trempe! N'oublions pas, c'est une élite sociale, mais aussi une élite spirituelle. Quelle humilité dans sa démarche. Cet homme connaît pas mal de choses. Il sait qu'il y a une vie après la mort. Mais il sait aussi qu'il y a un jugement. Et il veut être du bon côté du jugement. Personnellement, je connais peu de personnes aussi empressées. Et j'aimerais que nos contemporains et ce souci de la vie éternelle. Essayez de discuter de la Bible, de la bonne nouvelle, avec vos amis, vos proches, et vous verrez rapidement que ce n'est malheureusement pas le cas. Aucun n'a de l'intérêt pour la vie éternelle, aucun n'a de l'empressement pour connaître Dieu. Cet homme a compris une chose essentielle. Nous sommes éternels. Nous sommes éternels. De deux choses l'une, soit nous serons dans la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité, soit nous n'y serons pas. Soit nous irons au paradis, soit nous serons dans les temps de feu pour l'éternité. Et tout ça se joue pendant notre temps de vie sur cette terre. C'est maintenant que tout se joue. En posant la question « Pourquoi m'appelles-tu bon ?», certainement le jeune homme riche ne s'attendait pas à la réponse que Jésus lui donne. « Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Que fait Jésus ? Jésus interpelle cet homme sur sa propre conception de Dieu. Parce que nous avons tous une certaine conception de Dieu. Jésus est en train de lui faire cette démonstration. Puisque tu dis que je suis bon et que Dieu seul est bon, es-tu prêt à reconnaître que je suis Dieu ? En fait, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, Jésus fait souvent cheminer, il fait souvent réfléchir ses auditeurs en répondant à des questions par des questions. Parfois, Jésus enseigne. Il enseigne directement, par exemple, le sermon sur la montagne où l'on voit Jésus donner un enseignement, un discours continu, sans question-réponse. Mais parfois, et notamment dans ses interactions avec ses disciples, ou avec la foule, ou même avec ses adversaires, Jésus pose des questions. Et c'est au travers de ces questions que l'on peut voir que Jésus connaît bien les cœurs, ce qui n'est pas notre cas. Nous ne voyons pas ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Parfois même, nous sommes étonnés par ce qui se trouve dans notre cœur. Jésus réalise que cet homme a une notion mécanique de la vie éternelle et il souhaite lui ouvrir les yeux. Le jeune homme riche pense « J'obéis au commandement, je fais ceci ou je fais cela. Et surtout, je ne fais pas ceci et je ne fais pas cela. » Et finalement, bingo, j'obtiens la vie éternelle. Dieu va me l'accorder, il me doit bien cela. Alors, afin de faire réfléchir le jeune homme riche, Jésus emploie la technique du questionnement. En plus d'amener l'auditeur à réfléchir différemment, Jésus fait prendre conscience à ce jeune homme qu'il a dit quelque chose d'hyper engageant. Si tu m'appelles bon, alors que Dieu seul est bon, et ça, tu le sais, tu le confesses de ta bouche, c'est donc que tu reconnais que je suis Dieu. Es-tu prêt à cela ? Dieu nous amène souvent à réfléchir sur nos présuppositions, car elles définissent énormément la réalité, l'authenticité et la qualité de notre vie spirituelle et l'état de notre cœur. Quelles sont nos présuppositions ? Ou quels sont nos a priori ? Personne ne vient au texte de l'Écriture avec un esprit vide. Et ça, c'est une constatation. Chaque lecteur, chaque étudiant de l'Écriture vient à la Bible avec une histoire particulière, avec une expérience personnelle qui a inévitablement un impact sur sa façon d'interpréter les Écritures. Même les disciples de Jésus avaient leur propre idée de qui était le Messie et de ce qu'il était censé faire selon les attentes de l'époque. Leurs convictions fortes leur interdisaient une compréhension plus claire de l'enseignement de Jésus. Et ce n'est qu'après la résurrection qu'ils ont compris que Jésus était venu les libérer du péché et non pas les libérer du joug romain. Ils attendaient un Messie de gloire qui libérerait Israël de l'envahisseur, ce qui explique le fait qu'ils aient si souvent mal compris Jésus et les événements entourant sa vie, sa mort et sa résurrection. Quelles sont les convictions qui nous empêchent de penser juste, de penser comme Dieu veut que nous pensions? Nos convictions viennent-elles de nos traditions, de nos coutumes? On a toujours fait comme cela? Ou bien sont-elles venues après une longue méditation de la parole de Dieu? Peut-être vous posez-vous la question de savoir pourquoi je parle tant des traditions religieuses. Alors je vais être franc avec vous. Moi, ça ne me gêne pas, la tradition religieuse. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de croire ou de vivre comme il le désire. Mais au jugement dernier, j'ai bien peur que les décisions que nous avons prises auront plus d'importance que ce que nous croyons. La tradition religieuse peut-elle compléter, voire supplanter la révélation écrite? Non. a-t-elle autorité sur la Bible ? Non. Je pense que ce genre de question a toute son importance. Pourquoi ? Parce que je réalise à quel point de nombreuses personnes s'accommodent assez facilement des dires et des traditions de l'Église sans réaliser que parfois il y a opposition claire et directe avec l'Écriture. Non, toute tradition religieuse n'est pas bonne. Non, toute religion n'est pas bonne. Nos croyances sur le monde, sur la réalité ultime et Dieu, influencent involontairement ou inconsciemment notre interprétation de la Bible. Et si nous lisons la Bible, la parole de Dieu, avec un esprit ouvert, en faisant fi de toutes nos croyances et avec un cœur honnête, il n'en demeure pas moins vrai que seul le Saint-Esprit peut corriger nos perspectives. Seul le Saint-Esprit peut corriger nos croyances et nos présuppositions. Écoutez ce que dit Jésus à ses disciples. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 12. Seul l'Esprit Saint peut nous convaincre. Seul l'Esprit Saint peut nous conduire dans la compréhension des Écritures, malgré nos présuppositions. Alors, de quelles présuppositions, de traditions, coutumes, croyances, appelez ça comme vous voulez, de quelles présuppositions dois-je me débarrasser maintenant pour plaire à Dieu ? C'est, me semble-t-il, une bonne question que nous pouvons nous poser. Maintenant, venons-en au troisième point. Jésus veut faire réaliser à cet homme qu'il n'est pas aussi bon que ce qu'il pense. Et si nous faisons bien attention au texte, nous pouvons voir Jésus attendri par cette situation. Jésus apprécie cet homme, il l'aime. Tel un petit enfant, cet homme croit à son mensonge. « J'ai fait cela depuis ma tendre enfance. » Magnifique, n'est-ce pas ? Le texte nous dit que Jésus l'aima. Mais la suite nous montre Jésus reprendre la conversation en citant les commandements. « Écoute, tu connais les commandements ?» Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. « Tu connais les commandements. » En faisant cela, Jésus déstabilise le jeune homme. En fait, Jésus lui dit « Regardons d'un peu plus près tes convictions, tes a priori. Regardons d'un peu plus près tes croyances. » Et Jésus est brillant. Il est brillant parce que nous pouvons voir Jésus réciter les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc., etc. On peut imaginer le jeune homme riche ouvrir des yeux grands comme des soucoupes, et comme dans la fable de La Fontaine où il est dit, ne se sentant plus de joie, il ouvrit un large bec. Et plein de bonheur, il lâche son fromage et il dit à Jésus, « J'ai fait cela depuis ma plus tendre enfance. Je suis un homme bon. Donc, j'ai mérité la vie éternelle. Je vais aller au ciel. J'ai coché toutes les cases, se dit-il. Je suis un homme parvenu au ciel, j'ai respecté les commandements. » Mais en fait, Jésus lui tend un piège. Il lui tend un piège magistral. Et le jeune homme riche tombe de façon tout aussi magistrale dans le piège que Jésus vient de lui tendre. Pourquoi ? Parce que les 10 commandements sont composés de 2 parties. Une partie réservée à Dieu et une seconde partie réservée à notre relation avec notre prochain. Remarquons que Jésus cite uniquement les commandements qui concernent nos relations avec les autres et non ceux qui concernent notre relation avec Dieu. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que cet homme n'est pas adultère. Il n'est pas meurtrier. Certainement, il a respecté son père et sa mère jusqu'à leur mort. Cet homme est un homme bien sous tous les rapports. C'est le gendre parfait. Mais Jésus sait que son problème n'est pas dans la deuxième partie de la loi. Son problème se situe dans la première partie de la loi. Jésus l'ayant regardé les mains. Et il lui dit, il te manque juste une chose, Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. En faisant cela, tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. » En proposant à cet homme de se débarrasser de sa richesse, Jésus pointe du doigt le problème majeur. Lui qui vit à la perfection les commandements sociaux, les commandements relationnels, il ne réalise pas qu'il est en porte-à-faux majeur quant à la première partie de la loi, tous les commandements qui le lient à sa relation avec Dieu. Et c'est cela son problème. En d'autres termes, il a un autre Dieu dans sa vie. Il a une idole gravissime, aveuglante dans sa vie. Les biens matériels, les biens de ce monde sont sa sécurité. Et c'est de là qu'il tire le sens des valeurs. En réalité, il est coupable, et il est bien plus coupable que ce qu'il ne peut l'imaginer lui-même. En violant le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. En violant ce premier commandement, l'effet est le même que s'il avait violé l'ensemble des 10 commandements. En réalisant la deuxième partie des 10 commandements, il croit avoir accompli ce qui est le plus important. Alors qu'en fait, s'il était possible à l'homme de réaliser seulement le premier commandement, tout le reste découlerait de lui-même. J'ai appliqué cela depuis ma tendre enfance. Mais il a un autre Dieu. Et il comprend tout de suite ce que Jésus lui dit. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste. Arrive maintenant cette fameuse phrase de Jésus : il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors cet homme réalise son idole. Il est incapable de la lâcher. C'est une des caractéristiques des idoles. On en a besoin. On a besoin d'elle pour vivre. À tout le moins, c'est ce que l'on pense. Et Jésus fait remarquer à ses disciples que l'argent est l'une des idoles les plus aveuglantes qu'il soit. Ce qui laisse sous-entendre que nous pouvons avoir aussi d'autres idoles que l'argent. À nous de voir laquelle de ces idoles nous devons quitter afin d'être un disciple accompli. Pourquoi l'argent est-il l'une des idoles les plus aveuglantes qu'il soit? Parce que l'argent donne un faux sentiment de sécurité. Il prend la place de Dieu. Quant à l'avenir, nous disons-nous, nous n'aurons besoin de rien, nous avons de l'argent. Nous avons les moyens de subvenir à nos besoins. On pourra se payer de quoi manger, de quoi se chauffer, de quoi avoir des soins si un jour nous tombons malades. Bon nombre de nos semblables n'ont de valeur que la valeur du solde de leur compte. Et c'est un ancien employé de banque qui vous dit ça. Bon nombre de nos semblables n'ont de valeur que la valeur du solde de leur compte. Moi, je vaux autant. Les Américains sont très friands de ce genre de phrases. Moi, je gagne autant, alors les gens doivent me considérer à la hauteur de mon compte en banque. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu seul est notre refuge, pas notre compte en banque. Dieu seul est notre forteresse, pas notre compte en banque. C'est sous son aile, sous sa protection, que nous sommes bien. Demandez aux Ukrainiens si leurs biens, leurs richesses peuvent les protéger contre l'envahisseur. Mes amis, n'oublions jamais que maintenant, à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Et c'est une réalité. Quoi qu'il advienne, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, avec notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Que peut-il nous arriver ? La maladie ? La mort ? Oui. Et alors, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes pour l'éternité. Paul dira : car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, m'est un gain. J'aimerais faire remarquer que l'image que nous avons de Dieu, et c'est d'ailleurs le réel centre du dialogue entre Jésus et ce jeune homme, l'image de Dieu, l'image que nous nous faisons de Dieu, est importante. Et il faut veiller à ne pas tailler un costume à Dieu, un costume qui n'est pas le sien. Nous ne devons pas créer de divinité ni de spiritualité à l'image de ce que nous aimerions voir d'elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a interdit de faire des images taillées. Souvenons-nous, le veau d'or. Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Nous avons un Dieu qui se révèle à nous, par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Un Dieu qui ne serait que bon et pardon. Ce serait chouette, évidemment. Mais ce ne serait qu'une facette de ce que Dieu est réellement. N'oublions pas que Dieu est aussi justice et équité. En accueillant un Dieu qui s'est révélé dans les Écritures, nous reconnaissons qui il est et non pas qui nous croyons qu'il est. Alors voilà, mes amis, je vais terminer par une chose essentielle. Le jeune homme riche croyait être sauvé par l'accomplissement de toutes sortes d'œuvres, alors qu'en fait, seul le sang de Christ nous justifie aux yeux de Dieu, et non pas nos œuvres. Christ est mort pour mes péchés, ma dette est acquittée. L'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors voilà, je termine. Peut-être vous demandez-vous s'il m'arrive, moi aussi, de mettre Dieu dans une case. Alors, si un jour il me venait l'idée folle de mettre Dieu dans une case, alors sans hésiter, mais sans aucune hésitation, ce serait la case 139. Quoi ? Comment ? Vous connaissez pas la case 139 ? Écoutez bien la case 139. Psaume 139. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis ta main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'ai dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille. Je suis encore avec toi. Quels sont mes a priori sur Dieu, sur le bon Dieu? Ne serait-il pas plus juste de dire que Dieu est au-delà de nos concepts humains? Il est Dieu. Amen. Prions. Père, apprends-nous à avoir une image juste de qui tu es. C'est à la lumière de ta parole, à la lumière de ton esprit, que nous pouvons voir qui tu es réellement. Tendre Père, tu m'aimes et tu te soucies de moi. Tu recueilles dans un flacon chacune de mes larmes. Tu connais chacun de mes besoins, chacune de mes pensées. Et malgré cela, oui, malgré cela, tu m'aimes. Tu es plein de tendresse pour moi. Je n'ose m'imaginer à quel point tu es patient, attentionné avec moi, toujours prêt à me pardonner, toujours prêt à me pardonner et à me bénir. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, je ne peux que m'écrier, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, tu es le Dieu d'amour. Amen.